Donc c'est une très bonne habitude de pouvoir honorer les mamans aujourd'hui. Et on veut, c'est vrai, en tant qu'Église, prendre conscience. Ça se présente très bien qu'il y ait cette présentation de bénédiction d'enfants. Le jour des mamans, le jour de la fête des mères, je pense que c'est une bonne coïncidence. Enfin, on l'a organisé comme ça aussi, il faut le dire. Que ce temps soit véritablement un moment où nous pouvons donner véritable notre reconnaissance à Dieu pour le don de la maternité, le don de la maman, car être maman, être mère est un don, un ministère donné, confié par le Seigneur, une tâche importante et je dirais même pas seulement une tâche, mais une multitâche, une polytâche, parce que les mamans doivent avoir les yeux partout, les oreilles partout et les bras partout pour faire face à tout ce qui leur incombe. Et puis, tout ce que la maman a fait, pourront jamais évaluer, comptabiliser toutes les tâches et tout le service, et tout l'engagement et tout l'amour et toute la consécration de leur vie pour chacun d'entre nous. Même si votre maman est partie, elle est au ciel, elle est décédée depuis longtemps, eh bien, l'honneur et la reconnaissance à Dieu pour notre maman doit rester intacte. Elle doit rester intacte. C'est vrai que nous voulons toujours dire, nous honorons Dieu avant toute chose. À lui revient toute la gloire. C'est pour ça qu'on commence les cultes avec la louange. C'est normal de mettre Dieu en premier. C'est à lui que revient l'honneur. Et nous ne voulons en aucun cas toucher à cela. Cependant, honorer quelqu'un, honorer les mamans aujourd'hui, mais pas seulement, parce que la Bible ne parle pas seulement d'honorer les mamans, eh bien, cela n'enlève en rien l'honneur que nous devons à Dieu et cela ne déroute en rien l'honneur et la louange qu'on doit au Seigneur. Car honorer veut simplement dire « je reconnais ta valeur, je reconnais la valeur de ton service et je te reconnais ». C'est ça, honorer. Bien sûr, dans la Bible, la mère a toute sa place et le respect et l'honneur lui sont dus d'office. La Bible ne parle même pas d'un honneur particulier donné à la maman. C'est la tradition populaire qui le veut ainsi. Mais la Bible dit par contre que de ne pas l'honorer, la Bible dit que de ne pas ou d'anéantir l'honneur dû aux parents porte à graves conséquences. Donc la Bible estime que honorer ses parents, ça va de soi. C'est dans le bon ordre des choses, mais faire le contraire, c'est-à-dire, je prends le texte exact, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Ça, c'est la loi de Moïse. Donc, il y avait une sanction extrêmement grave contre ceux qui véritablement faisaient le contraire de l'honneur. Maintenant, bien sûr, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend exactement par maudire. Je ne vais pas entrer dans l'exégèse de ce texte ce matin, simplement dire que aujourd'hui, l'honneur a tout à fait sa place. La Bible insiste par contre, des quantités de fois, je n'ai pas compté le nombre de fois, mais des quantités de fois, honore ton père et ta mère. C'est même dans les 10 commandements. Afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Honore ton père et ta mère. Et l'honneur est dû aux parents. Il est également demandé dans 1 Pierre 3 que le mari doit honorer son épouse. Honorer son épouse. Je pense que on pourrait ajouter à un seul amen, d'autres amen dans l'assemblée, pour être d'accord avec la parole de Dieu. Et on peut même applaudir les mamans aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, simplement ferme nos yeux, Seigneur, merci pour ma maman. Elle est là. Elle n'est peut-être pas dans cette salle, mais elle est là où elle n'est plus de ce monde. Mais je te dis quand même merci, Seigneur. Et je m'en souviens avec émotion. Seigneur, aucune maman n'a été parfaite, mais je l'honore quand même. Je veux l'honorer parce que la Bible le dit et mon cœur le dit aussi, bien sûr. Je reviens à mon texte de 1 Pierre 3. Il est dit que les maris doivent honorer leur épouse afin que rien ne fasse obstacle à leur prière. Afin que rien ne fasse obstacle à leur prière. Vous priez ensemble, dans un honneur et une reconnaissance mutuelle, vous aurez des résultats. Vous n'êtes pas accordé, il y a un blocage qui subsiste. La Bible dit précisément que rien ne fasse obstacle à la prière du couple lorsque nous avons la bonne attitude l'un en face de l'autre. Quelques citations sur les mamans, j'ai trouvé ça assez bien. La fête des mères est un prétexte car on devrait fêter la maman toute l'année. Je pense que les mamans sont d'accord avec ça. Même si elles ne souhaitent pas avoir la fête toute l'année parce qu'on pourrait même se fatiguer de cela. Une maman, c'est comme du coton. Elle est douce à l'intérieur comme à l'extérieur et elle nettoie tous les maux. Une maman, c'est celle qui gronde, mais c'est celle qui pardonne tout. Une maman ne dort jamais tout à fait. Elle est liée au sommeil de son enfant. Est-ce qu'il y a des jeunes mamans qui peuvent dire « oui, c'est vrai ». L'amour d'une maman, c'est la conviction que ses poussins sont des signes et que la meilleure façon de donner du moral à ses enfants est qu'ils sont convaincus d'être de vilains petits canards. Alors maman, vous avez des signes dans votre maison et même s'ils sont parfois des vilains petits canards, eh bien, croyez quand même qu'ils sont des signes. On ne peut pas essayer, disait un enfant, on ne peut pas essayer d'être amoureuse de papa, maman a déjà essayé. Et puis une dernière parole d'enfant, c'est la maman de maman, c'est ma mémé, c'est le bébé de mémé, ma maman, mais ma mémé fut maman quand maman fut bébé. Elle est bien trouvée celle-là, je ne sais pas s'il était... Si c'est un futur ingénieur qui a dit ça, mais cet enfant avait de la suite dans les idées. Voilà, passons à la parole de Dieu. Dans un premier temps, j'ai un texte vers la fin qui va vraiment nous emmener dans une parole que Jésus va nous laisser aujourd'hui, j'en suis certain. Mais pour dire l'importance des mamans, car l'apôtre Paul a été littéralement inspiré par le ministère de la maman. Pour preuve, 1 Thessaloniciens 2, 7 nous en parle. 1 Thessaloniciens 2, 7, je vais juste prendre cette parole pour vous le montrer, à quel point le ministère apostolique de Paul a été inspiré par la maman. 1 Thessaloniciens 2, 7. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu... Dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. L'apôtre Paul a donc été puissamment inspiré par le ministère de maman et il a pris exemple sur l'engagement et la façon de prendre soin d'une maman par rapport à ses enfants pour s'en inspirer dans sa manière d'être pastorale. Dans sa manière de suivre les gens, de veiller sur les gens et de leur donner le maximum. Et il va dire que c'est la douceur d'une maman, la douceur d'une mère qui l'a touché d'abord, la douceur d'une maman. Est-ce que toutes les mamans sont vraiment toujours douces? Je vous laisse répondre. Elle a des multiples dons qui correspondent aux besoins de l'enfant. C'est ça que j'aimerais souligner. La maman reçoit de Dieu des dons capables de répondre aux besoins de son enfant. Il est même prouvé que la voix de la maman est meilleure consolatrice que toutes les autres astuces pour calmer un enfant. La maman, par sa voix, calme. Elle a quelque chose de particulier, bien sûr, qui est génétique, hein, qui est dans ses gènes et dans le lien intrinsèque avec son enfant. Et cet enfant, bien sûr, qu'elle a porté, est rassuré premièrement par sa maman. Mais cette douceur et ces tendres soins, donc je reprends les mots de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 2, 7, cette douceur, ces tendres soins et cette vive affection montrent cette chaleur humaine que notre monde a tant besoin aujourd'hui. a tant besoin de retrouver. Et j'aimerais tant que dans l'Église se lèvent des personnes qui ont un ministère avec cette marque-là, qui portent cette marque-là de cette pleine douceur, de ce tendre soin et de cette vive affection, car ce ministère ne correspond pas seulement à l'apôtre Paul, mais peut être demandé par tous ceux qui le veulent. Si vous désirez suivre et prendre soin d'autres personnes, eh bien vous pouvez également être investi des mêmes sentiments, car ce sont les sentiments qui sont en Jésus-Christ, donnés par le Père céleste, le Père parfait. Elle donne cette douceur et ces tendres soins. Et tendre soin dans le grec veut dire réchauffer. Réchauffer. Elle s'est tellement réchauffée, l'âme tremblante et le cœur incertain d'un enfant, même parfois adulte. Elle veille sur sa couvée, elle la tient bien au chaud, même quand viendra le moment où il faut laisser partir sa couvée. C'est pas facile, hein, les mamans. Mais vient ce moment-là aussi où les tendres soins sont d'une autre nature que simplement chauffer les besoins, les consolations demandées par l'enfant. Une de nos filles, elle dit volontiers, en se câlinant vers sa maman, parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire ça, hein, pas d'âge pour faire ça. Elle dit, maman, je viens recharger mes batteries. C'est beau parce que la maman, elle a une capacité émotionnelle de nourrir l'âme. Elle nourrit l'âme d'une manière bizarre, d'une manière intuitive, d'une manière spéciale, qui recharge les batteries. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? C'est quand même spécial tout ça. C'est quand même particulier. C'est le Créateur qui a mis ça dans le cœur d'une maman par l'instinct maternel. Dans les différents mariages où j'ai pu accompagner les jeunes époux, j'ai vu des jeunes très, très, très émancipés, des jeunes dames qui étaient très émancipées, très libres, très modernes, très actuelles, etc. Et je me dis, mais comment est-ce qu'elle va être comme maman? Je me demande bien comment ça va fonctionner. Est-ce qu'elle va y arriver? Lorsque le bébé est arrivé, le premier enfant est arrivé, j'étais complètement soufflé de voir à quel point cette dame, où j'y croyais pas qu'elle allait y arriver comme cela, elle avait tout l'art d'être maman. D'un coup comme ça. Est-ce que c'est vrai, même, chère maman, que ça fonctionne toujours, finalement, l'instinct maternel? Ça marche. Si on regarde la Bible, la maman, on a l'impression que c'est la maman au foyer, c'est la maman qui reste à la maison, qui élève les enfants et qui est vraiment cette maman qui gère la maison. Globalement, on a l'impression que c'est ça, globalement, l'image biblique de l'Antiquité, et on peut dire, mais ça c'est autrefois, aujourd'hui on n'est pas dans ce monde-là. Aujourd'hui les mamans travaillent, elles ont des affaires à faire, elles ont beaucoup à gérer, elles ont des occupations de tout genre, elles peuvent devenir même conseillères fédérales, hein, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé dans votre Bible le Proverbe 31. Il dit par exemple que cette femme-là, elle est de l'Antiquité, hein, elle est du temps de Salomon. Elle travaille d'une main joyeuse, elle se procure différents tissus, elle est comme un navire marchand, elle donne des instructions à ses servantes, elle réfléchit à un champ pour l'acheter, elle plante une vigne, c'est une femme d'affaires, c'est une manager d'une exploitation. Alors écoutez, ne cherchez pas pour trouver qui c'est, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Alors je voudrais aussi honorer la maman de mes enfants. Le travail d'une maman est noble et exigeant. Et dans ce que je vais apporter maintenant, c'est peut-être une solution divine à un dilemme qui se pose de nos jours. Est-ce qu'une mère chrétienne est compatible dans la vocation qui est la sienne de veiller, de prendre soin, de veiller à l'éducation, de donner de l'influence et de donner les valeurs à nos enfants tout en étant dans une intense activité professionnelle? Et j'aimerais dire qu'il n'y a pas de solution facile à ce dilemme. Il n'y a pas de solution facile. Parfois, travailler en tant que maman est une nécessité, parfois même une obligation financière. Mais je voudrais tout de même me permettre de mettre en garde peut-être des familles qui d'abord disent il nous faut ceci, il nous faut cela, il nous faut cela. Et pour avoir tout cela en même temps, il est obligé que les deux travaillent à plein temps. Bien sûr, chacun est libre et je ne suis pas en train de vous dicter ce que vous devez faire, mais j'aimerais vous apporter juste des éclairages bibliques pour ne pas que vous ayez arrivé dans un certain stade où tout le monde est tellement fatigué, où tout devient tellement difficile, où les enfants deviennent une charge avant d'être une bénédiction, deviennent un problème avant d'être une joie et une vocation familiale. Eh bien, je rencontre quand même pas mal de gens qui ont tellement investi dans le matériel, à tort ou à raison peut-être, mais qui quelque part privent nos mamans de leur vocation profonde. Alors je ne voudrais pas faire peser une culpabilité, car nous sommes là ce matin pour prier pour les mamans, pour les aider, les soutenir, les entourer. Cependant, je pense que c'est important que les bonnes directions soient bien réfléchies. Avant d'engager votre vie sur tant d'années avec des charges si importantes, frères et sœurs, réfléchissez bien. Frères et sœurs, mettez-vous devant Dieu et mettez Dieu au centre de vos projets. Si Dieu vous donne l'accord, faites-le. Mais si vous n'avez pas l'accord du Saint-Esprit, ne vous y engagez pas, même si tous les autres le font. Obéissez au Saint-Esprit et votre vie aura un impact, une réussite et une bénédiction pour vous et pour les autres. Sinon, votre impact et votre bénédiction va se réduire comme une peau de chagrin et deviendra une vie qui deviendra littéralement survie et non pas la vie en abondance. Nous sommes littéralement poussés par une société carriériste où il faut arriver, il faut avoir une image, il faut être quelqu'un, il faut en comparaison des autres, il faut tellement, tellement. Et on a des exigences à tel point que je rencontre trop de gens fatigués, trop de gens fatigués. C'est pour ça que je me permets de vous le dire en tant que pasteur de cette assemblée et vous dire que, chère maman, vous avez tant d'influence sur vos enfants. Ils grandissent tellement vite et on peut influencer l'enfant non pas à tout âge, mais dans les premières années. On dit toujours que les premières 6-7 années sont décisives. Ensuite, il y a encore 10 autres années où la maman influence beaucoup, les parents bien sûr, mais la maman aussi. Puis après, c'est plus ou moins terminé. Plus ou moins terminé. L'investissement d'une maman est à prendre en compte ce matin. Cher papa, cher époux, je vous encourage à soutenir cette vocation que Dieu a confiée à votre femme, car elle a une vocation de Dieu. C'est vrai que c'est le couple qui reçoit le mandat d'être père et mère, mais définitivement, ça vient du Seigneur. C'est pour ça qu'on va rendre compte à Dieu. On doit rendre compte à Dieu de tout cela. Et le Seigneur va nous aider à vivre au mieux cette merveilleuse vocation. Maman, vous avez une grande influence, plus que vous ne pensez. Et j'aimerais consoler ces mamans ce matin qui se disent, j'ai l'impression que j'ai tout fait faux, j'ai l'impression que ça n'a pas marché, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait, ça n'a pas réussi avec l'un ou l'autre de mes enfants, voire plusieurs enfants, et qui sont culpabilisés dans leur âge avancé, et qui sont tristes, et qui pleurent, et qui prient jour après jour, et qui versent des larmes en secret que personne ne voit sauf le Seigneur lui-même. J'aimerais vous dire, je suis sûr que vous avez fait pour un mieux quand même. Pas toujours juste, c'est vrai, mais pour un mieux quand même. Et Dieu voit ce que vous avez fait. Et j'aimerais vous encourager pour deux choses. Faites confiance au Seigneur, un. Et n'arrêtez jamais de prier pour vos enfants, deux. N'arrêtez jamais, même s'ils ont 50 ans aujourd'hui, n'arrêtez pas de prier pour eux. Car votre influence ne peut plus être dans l'éducation, mais votre influence est spirituelle dans la prière et puissante. Car ce n'est plus votre bras qui va consoler et agir, c'est le bras de Dieu qui va faire en sorte qu'il va faire quelque chose pour vos enfants. N'arrêtez pas de prier pour eux et soyez consolés. S'il est possible, il faudrait éviter que les enfants soient séparés trop longtemps des parents. Et encore une fois, je sais que je suis sur un terrain sensible dans notre assemblée, car je connais des situations où cela existe. Et souvent, c'est la faute à personne. C'est la faute à personne. Quelque part, la vie vous a conduit comme cela. Encore une fois, je voudrais simplement prier pour ces situations difficiles qui sont au milieu de nous. Parce que nous sommes une famille. Ce n'est pas des petits mots que je dis comme ça. Nous sommes une famille. Nous devons prendre soin les uns des autres. Et si quelqu'un a un fardeau qu'il ne peut porter, ou une maman qu'elle ne peut porter cela, qu'elle souffre, nous devons en être informés pour pouvoir prier avec vous de tout notre cœur. De tout notre cœur. L'apôtre Paul avait ses sentiments maternels en lui pour l'Église, et j'aimerais l'avoir pour l'Église aussi, avec mes collègues, bien sûr. Nous voulons vous entourer. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes à votre place. Nous ne pouvons pas résoudre matériellement tous les problèmes qui se posent. Mais nous pouvons, par la grâce de Dieu, invoquer le nom du Seigneur, qui est au-dessus de tout et qui peut tout, et qui peut résoudre les problèmes les plus impossibles. Cependant, j'aimerais faire appel à votre sentiment maternel. Ne laissez pas vos enfants trop loin de vous lorsqu'ils ont besoin de vous. Car il va se passer deux choses. Ils vont s'éloigner de vous émotionnellement et ils vont se construire hors de votre influence. Ils vont se construire, mais hors de votre influence. Ce n'est pas vous qui allez les construire, ils vont se construire autrement. Et je suis surpris de voir, même là où les enfants habitent, que beaucoup d'enfants sont construits par les médias, par la télévision, par Internet, etc., ou par la rue, par les copains. C'est eux qui construisent et donnent les valeurs. Et tout à coup, les parents réalisent, mais c'est notre enfant, il ne porte plus nos valeurs. Il a des valeurs des voisins, de l'école, etc. Et c'est une souffrance. Frères et sœurs, ce matin, je veux qu'on prie. Ce sont des vrais problèmes, cela. Et ce sont des vrais défis, mais je proclame ce matin que Dieu peut là où nous ne pouvons pas. Et il va nous aider à revenir à notre vocation véritable. Nous n'avons pas besoin de tous arrêter notre travail pour redevenir des mamans au foyer. Ce n'est pas ça que la Bible demande. Mais il faut comprendre ce que Dieu nous demande vraiment. Il faut être dans sa volonté. Et il faut la faire. Elle va coûter quelque chose. Et le texte, je vais essayer de faire ça en 5 minutes, 10 minutes maximum. Le texte que je vais prendre, c'est l'histoire de Marthe et de Marie que vous connaissez. Nous lisons dans Luc chapitre 10, à partir du verset 28. Et juste vous mettre dans le contexte, et on va juste prendre la clé qui se trouve dans ce texte, car c'est ça que j'aimerais de tout mon cœur vous dire ce matin. Luc chapitre 10. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus, pied du Seigneur, et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service et elle survint en disant « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Jésus va s'arrêter à Béthanie, dans une maison où il a l'habitude de s'arrêter. Il trouve toujours dans ce foyer de Marthe, Marie et Lazare un accueil chaleureux. Il est ami de la maison et il connaît très bien Marthe et Marie et Lazare. Il les connaît parce que le récit de Jean chapitre 11 et chapitre 12 nous mettent encore une fois en relation avec Marthe et Marie. Et ce texte d'aujourd'hui montre réellement le dilemme entre les Marthe et les Marie. Je ne sais pas qui ce matin se définit plus comme une Marthe et qui se définit plus comme une Marie. Ne levez pas la main, ce n'est pas nécessaire. Mais juste définissez dans votre cœur. Moi, j'ai une tendance à être une Marthe. C'est-à-dire, je vois ce qu'il y a à faire. Et puis, je m'énerve assez facilement sur les gens qui ne voient jamais ce qu'il y a à faire. Et puis, moi, je suis Marie, c'est-à-dire je suis que spirituel. Et je m'intéresse que aux choses spirituelles. Les autres choses, ça n'a pas d'importance ou peu d'importance. Ce sont des clichés qui ne sont pas tout à fait corrects. Mais c'est le dilemme entre être actif et être passif, peut-être. Entre pratique, Marthe, et spirituel, Marie. Entre prioritaire, Marie, et secondaire, Marthe. Entre le service intense et juste, Marthe, et le repos du cœur, Marie. Entre deux caractères différents, la diaconesse qui est servante, qui est Marthe, et la contemplative qui est Marie, qui passe beaucoup de temps dans la prière au pied de Jésus. Alors, il y a ce cri du cœur des mamans ce matin. Seigneur, J'aimerais tellement ressembler un peu plus à Marie. J'aimerais tellement avoir un peu plus de temps pour moi, me reposer au pied de Jésus. Juste avoir le temps pour moi, pour me ressourcer, pour lire un bon livre ou juste être tranquille, être déconnecté du quotidien avec les nombreuses tâches de maman. Est-ce qu'il y a des mamans qui ont envie de ça ce matin? J'en connais aussi. Marthe est une bonne maîtresse de maison. La Bible le mentionne dans Jean 11 et 12. Elle est mentionnée en premier et elle sert. Jean chapitre 12, verset 2. Elle servait pendant que Marie faisait autre chose. Elle croit en Jésus. Elle a la foi. Elle va déclarer d'ailleurs, « Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Tout va bien pour Marthe. Jusqu'au moment où non seulement les fours sont en train de chauffer dans sa cuisine, mais les émotions sont en train de chauffer. La moutarde lui monte au nez. Et elle se dit, mais pourquoi est-ce que je suis seule à servir ici? Pourquoi tout le monde ne pense qu'à soi? Pourquoi il n'y a plus d'esprit de service ici? Est-ce que c'est des paroles qui résonnent parfois, même dans la vie d'église? Et Marthe va venir vers Jésus pour lui dire, « Seigneur, ça ne te fait rien qu'on me laisse seul pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Alors, première chose que j'aime bien, c'est que au lieu de rentrer dans le cadre de sa sœur, elle va s'adresser à Jésus. Elle va passer par Jésus pour que Jésus lui adresse. Ça, c'est une bonne méthode, je trouve. Calm down. Calm down. Et déjà, elle va s'adresser à Jésus pour que Jésus fasse quelque chose. Donc, au lieu de confronter la personne qui peut-être nous irrite, parlons-en au Seigneur d'abord. C'est la première leçon que je vois dans ce texte. Et Jésus va répondre à Marthe en disant, « Marthe, Marthe, juste pour qu'elle s'arrête. Marthe, Marthe, arrête-toi. Tu es trop agitée. Stop maintenant. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Jésus ne lui fait pas un reproche. Jésus l'aime. Parce qu'il dit que Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare dans Jean 11. Mais Jésus dit, tu t'inquiètes et tu t'agites. Tu es pleine d'inquiétude dans ton service et tu as perdu le repos dans ton service. Deuxième pensée que j'aimerais vous laisser. Servir, c'est bien. Bien faire son travail, c'est très bien. Mais le vivre hors du repos en Jésus, ça ne va pas. Perdre le repos pour être agité, le mot grec, c'est turbazo, elle turbinait. Elle était troublée et absorbée par tous les services. Elle était absorbée, tiraillée par tous les côtés dans son service, croyant que son service était urgent, même très urgent. Parfois, on croit que c'est tellement urgent. Et puis après, on réalise que le monde tourne très bien sans nous. Marthe, tu es en train de surréagir. Tu montes un petit problème en épingle. Ça, c'est aussi un danger que nous avons, et parfois les mamans aussi, c'est de monter un petit problème en grand problème, alors qu'il n'a pas raison d'être ainsi. Marie, nous la retrouvons au pied de Jésus, dans l'onction de Béthanie, Jean 12, elle écoute, Jésus ne la reprend pas parce qu'elle est paresseuse. Marthe dit, Marie est paresseuse, elle ne m'aide pas, elle ne travaille pas. Jésus, ce n'est pas juste, il faut que tu lui dises quelque chose. Mais comme Jésus ne reprend pas Marie en disant « Marie, tu devrais quand même ». Cela veut dire, d'après ma déduction, que Marie avait probablement aidé avant. Elle n'avait pas été paresseuse, sinon Jésus l'aurait reprise. Elle n'a pas été paresseuse, elle a probablement fait son service en son temps pour être libre pour quelque chose de plus important, entendre la parole de Dieu. Elle a fait des priorités, elle s'est arrangée, elle s'est organisée de telle manière que ce moment rare de la présence de Jésus dans sa maison, juste avant de mourir, parce que nous sommes dans les derniers moments de sa vie, elle voulait rater aucune bénédiction et elle dit « coûte que coûte, je vais maintenant être au pied de Jésus, le reste attendra. » Et même si je suis incomprise, être incompris dans sa propre maison parce qu'on est on écoute le Saint-Esprit, on donne suite à l'attraction du Saint-Esprit. Je pense à mon père qui, jeune converti, ne pouvait pas comprendre qu'en pleine journée, mon père est un ouvrier, il connaît le travail manuel, en pleine journée, je lisais ma Bible, pour lui, ce n'était pas concevable. Il disait, mais après journée, tu peux lire ta Bible, mais pas dans la journée. Dans la journée, tu as un outil en main. Et j'ai dû me libérer de cette façon de penser qui a été comme un poids sur moi pendant un certain temps, parce que c'était incompris de prendre du temps au pied de Jésus pendant que les autres font autre chose. Frères et sœurs, ce matin, nous allons tous faire ce que Jésus nous demande de faire. Je vous demande de faire ce que Jésus nous demande de faire. Jésus a dit, Marthe, ton service est bien, mais c'est ton inquiétude qui ne va pas. C'est ton tourment intérieur qui ne va pas. C'est ton jugement inutile sur ta sœur qui ne va pas. Et Jésus va dire à Marie, et je termine là-dessus, il va dire, Marie a choisi la bonne part et ce qu'elle reçoit à mes pieds, personne ne pourra jamais lui enlever. Ton service, il sera apprécié au moment même et on va peut-être s'en souvenir encore demain, mais après ce sera oublié. Tandis que Marie va recevoir à mes pieds, c'est quelque chose d'éternel qui se grave dans son cœur et qui va la propulser vers son avenir en Christ. Et c'est ça que Jésus veut souligner. Marie a fait la bonne part, a choisi la bonne part que personne ne pourra lui enlever. J'aimerais ce matin simplement terminer par la prière que nous puissions être des bons serviteurs et des bonnes servantes qui servent le Seigneur et les autres de tout leur cœur, mais être en même temps des Maries qui écoutent le Saint-Esprit, qui répondent à l'appel de Dieu, qui se laissent attirer à ses pieds et qui disent maintenant stop à ce qui n'est pas prioritaire parce qu'il y a un temps de bénédiction qui passe, il y a un moment favorable qui passe et je veux le saisir maintenant. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans le nom de Jésus ?